Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, à Noël, on ne sait jamais quoi offrir à nos ados. Mais cette année, on a trouvé le cadeau idéal. 2 heures dans leur forfait. Et vu le prix, c'est aussi un cadeau pour nous. Alors, c'est qui les parents trop géniaux?
Avec le Noël spectaculaire de SFR, profitez du forfait starter 2 heures à 0€ par mois pour les clients box pendant un an, puis 5€ par mois. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Offre soumise à condition, valable jusqu'au 8 janvier 2018 pour toute nouvelle souscription. Prix multipack sans mobile avec engagement 12 mois.
BFM Business et CB News présentent Hebdo.com avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, au programme d'Hebdo.com aujourd'hui, la naissance d'une nouvelle agence Human 7 qui succède à l'agence Les Gaulois. Sa présidente Elisabeth Biémaz nous dira pourquoi. Notre face-à-face du jour, les alliances entre les marques de luxe et les artistes. Est-ce toujours un duo gagnant? Olivier Bassuet, producteur et cofondateur d'Artbridge, et Jean Casgrain, directeur général de la maison Longchamp, sur ce plateau. Et puis en fin d'émission, rencontre avec Laurent Obadia, directeur de la communication et conseiller du président de Veolia. Hebdo.com, ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, Hebdo.com, les news.
Bonjour Frédéric Roy.
Bonjour Aurélie.
Bonjour Marie Valogne.
Bonjour Aurélie.
Alors avec vous Marie, comme chaque semaine, on fait le tour de ce qui vous a marqué dans l'actualité. On commence avec cette grosse opération marketing pour le cognac Louis XIII de la maison Rémy Martin.
Et oui, ils avaient déjà donc fait un film que personne ne pourra voir avant un siècle. Eh bien écoutez, ils remettent le couvert, cette fois-ci avec une chanson que personne ne pourra écouter avant 100 ans. Alors la marque a demandé au chanteur Pharrell Williams d'enregistrer un disque, sauf que ce disque est placé dans un coffre-fort programmé pour s'ouvrir dans 100 ans et uniquement s'il n'a pas été immergé par la montée des eaux. Alors la campagne vise bien sûr à interpeller sur le climat et est orchestrée par l'agence Fred et Farid.
Carrefour, de son côté, signe un contrat avec Philip Media, c'est pour son affichage digital, c'est ça Marie?
C'est ça, plus d'un millier d'écrans de publicité dernière génération vont être installés dans une centaine de stations-service des hypermarchés Carrefour. Ils seront développés par Philip Media. La régie publicitaire a levé 5,5 millions d'euros pour accompagner sa croissance.
Et puis pour Noël, évidemment, beaucoup de campagnes. À noter celle d'M&M's, qui est en fait la suite d'une ancienne pub qui date d'il y a 20 ans, c'est ça?
Voilà, cette publicité était sortie en 1996. Alors on y découvrait les M&M's jaunes et rouges qui tombaient nez à nez avec le Père Noël. Ce dernier tombait dans les pommes en les voyant. 20 ans plus tard, la marque décide de sortir la suite de cette publicité. Cette fois-ci, on découvre le M&M's jaune qui prend les choses en main, qui livre les cadeaux à la place du Père Noël, sauf qu'il s'en mêle complètement les pinceaux. Résultat, les cadeaux sont inversés d'une maison à l'autre. Le film est produit par CLM BBDO avec le soutien de BBDO New York et sort au niveau mondial.
Et puis dans un tout autre genre, en France cette fois, le CSA poursuit sa démarche pour lutter contre les pubs sexistes.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel annonce la création d'une charte, pour lutter contre les stéréotypes sexistes dans les publicités télévisées. Elle devrait être adoptée dans les semaines à venir. Alors son contenu précis n'est pas encore défini, mais il a déjà été indiqué qu'une grille serait créée, une grille pour permettre aux annonceurs d'auto-évaluer leur publicité.
Frédéric, c'est suffisant ça, une grille d'auto-évaluation pour faire évoluer les mentalités?
Ben, ça dépend un peu de la grille, mais d'un autre côté, c'est complètement l'intérêt des annonceurs et de leurs agences de respecter ce genre de choses. Parce que s'ils le font pas, ce sera le CSA et ou le gouvernement qui leur tapera dessus. Or, évidemment, ce sera beaucoup moins agréable pour eux. Donc je pense qu'ils vont le faire.
Merci Marie, à la semaine prochaine.
BFM Business, Hebdo.com, l'invité.
Et l'invité de la semaine, c'est Elisabeth Biémaz. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'agence Human 7. Human 7, c'est le nouveau nom de l'agence Les Gaulois. Pourquoi ce changement de nom?
Ce changement de nom, c'est la volonté, en fait, c'est plutôt l'aboutissement, en fait, d'une réflexion globale sur le modèle de l'agence et sa manière de travailler, sa manière de produire, sa manière de travailler avec les annonceurs. Et du coup, pour nous, c'était un aboutissement, en fait, global d'avoir un nom qui incarne cette transformation. Alors dans Human 7, en fait, il y a deux choses qui sont pour nous hyper importantes. C'est arriver en fait de réconcilier deux notions qui s'oppose un peu aujourd'hui quand on parle de communication, c'est celle de qu'il y a dans Human, de se dire que plus que jamais, en fait, il faut arriver à apporter un message universel, très émotionnel, parce qu'en fait, aujourd'hui, on parle encore plus à des gens qu'à des consommateurs. Mm-hmm. Et puis celui de la data, de celui aujourd'hui qui nous permet d'être vraiment très pointu sur la capacité de parler à chacun. On a l'impression que les choses s'opposent, on a l'impression que les agences de communication dites traditionnelles passent à côté de ce sujet de la data, ou en tout cas que c'est moins leur cœur de métier, et qu'inversement, il y a les plus spécialistes qui sont moins à même d'être sur ce métier de publicitaire et de message impactant. Et donc nous, on essaye vraiment de concilier les deux, et en tout cas, on essaye de se dire que tout ça, ça, on le formule en se disant que ça nous permet de donner une opinion à la data.
Et comment on donne une opinion à la data? C'est quand même hyper abstrait, la data.
La data, c'est effectivement de se dire que on arrive d'abord à avoir une connaissance pointue de ce qu'attendent les gens. Je pense qu'à un moment, c'est extraire de la data des insights pertinents, mm-hmm. et qui nous permet de formuler un message émotionnel qui va vous parler, qui va vous faire comprendre ce que la marque vous apporte dans votre vie de tous les jours.
7, c'est 7 milliards, 7 milliards d'humains, hein, c'est ça.
C'est ça, ça fait du boulot.
Ça fait pas mal de boulot. Alors, cela dit, l'agence a changé de nom, elle s'appelait les Gaulois avant. Ouais. Les Gaulois avaient un gros budget qui était Citroën, qui est resté dans le groupe Havas dont vous faites partie, mais qui est parti dans une autre agence. En quoi ce changement vous a poussé à cette mutation que vous annoncez aujourd'hui?
Alors en fait, le transfert de Citroën, donc, qui est parti effectivement chez une agence cousine, en fait, je pense que pour nous, on se dit que ça a été en fait plus l'accélérateur de notre transformation, parce que tous les chantiers qu'on a montés, qui sont des chantiers très structurels, hein, qui touchent à la manière de travailler, à la manière de produire, ça, c'est des choses qui se font pas en quelques semaines, donc c'est des choses qu'on a initiées depuis plusieurs mois, et on va dire que le transfert de Citroën donne un coup d'accélérateur en fait au fait de se réformer et de changer de modèle.
Alors, vous vous réformez jusque dans votre façon de travailler. Je crois que vous avez même mis en place des espaces de coworking. Vous allez un peu plus ou moins intégrer aussi par morceaux la station F. Comment est-ce que tout ça va se mettre en place?
Alors, tout ça est déjà mis en place. En fait, notre sujet, c'est aussi celui d'une entreprise, en fait. Et on a l'intime conviction que pour attirer les talents, en fait, dans notre métier, mais plus globalement dans les entreprises, il faut complètement changer le mode de management. On passe d'un management du contrôle à un management à la confiance, à travailler en mode projet, à pouvoir capitaliser sur le don d'ubiquité que les jeunes, les plus jeunes ont envie d'avoir. Et donc en fait, on a effectivement développé depuis maintenant plus d'un an un partenariat avec l'espace de coworking Anticafé. Donc c'est qu'à 6 espaces dans Paris, et on a développé un Anticafé co-brandé Human 7 qui est dans la station F. Et donc ça donne une approche totalement libre pour les collaborateurs d'aller travailler ou seul ou en équipe ou avec les clients. Et ça crée un espace-temps de liberté. Et je pense que c'est aussi...
C'est bon pour la créativité ?
C'est super bon. Voilà,
et
évidemment.
Pour l'organisation, ça marche. Je veux dire qu'il y ait potentiellement 6 ou 7 lieux dans lesquels les collaborateurs de l'agence puissent être, les clients, etc. C'est pas un facteur de complexité ou...
Pas du tout, parce que en fait, les collaborateurs, ils s'organisent, donc eux, en équipe, ils se donnent rendez-vous dans leur petit café qui leur convient, de la même manière avec les clients. Après, il y a la volonté, c'est de se dire, je pense que c'est un peu comme le déjeuner du dimanche midi en famille. Il y a un jour de la semaine, le lundi, on se dit que c'est bien quand même que tout le monde soit là, parce que ça permet tout d'un coup de faire un espèce de hub où on se dit, on arrive à se dire qu'à un moment donné, tout le monde, on a tout le monde sous la main et tout le monde peut bosser ensemble. Et après, c'est redonner la liberté et de se dire que ce qu'il faut, c'est que le travail soit fait. C'est pas la manière dont on va le faire et l'endroit où on va le faire qui...
Parce que vous avez aussi dans les offres des trucs assez originaux, du genre pouvoir répondre à un brief dans la journée. Donc là, il faut quand même... Ou que toute l'agence même se mobilise sur une question. Même que tout le monde soit un peu là en même temps.
Oui, alors bon, celui de Humans, on a effectivement structuré plusieurs offres propriétaires qui sont très structurantes pour l'agence. France. Il y en a une, c'est celle où tu fais référence, qui est le Human 7 Day. Alors celui-là, il est assez extraordinaire au vrai sens du terme. Hein. C'est dans des situations problématiques très précises pour un client, soit de com' de crise, soit une volonté de vraiment craquer un concept particulier par rapport à une concurrence. Aujourd'hui, on a des clients qui tous les jours se disent qu'ils ont une start-up qui va arriver et qui va venir tuer leur business, les manger. Donc on est dans des moments, des situations aussi d'urgence qu'il faut créer pour un peu dramatiser les choses et être capable avec eux de réinventer leur modèle. Et c'est ça notre sujet. Et donc ces journées, c'est des sortes de hackathons, mais pas au sens digital du terme. Hein. C'est des journées où effectivement il y a un brief le matin et l'ensemble de l'agence en fait travaille sur un sujet. Donc ça, ça s'organise. On n'en fait pas 50 dans l'année. C'est sur des problématiques bien précises à percevoir avec les clients. Et là, bien évidemment, dans ces moments-là, c'est la promesse de base. Tout le monde est là.
Et dans votre film de présentation, vous dites à un moment que si on peut rêver quelque chose, pourquoi ne pas le réaliser? Vous allez faire l'impossible pour vos clients, c'est ça le message?
Non, c'est l'impossible. On se dit tout ça. Hein. En fait, au final, on est des sociétés de services. Donc, mais ça, c'est un peu, voilà, c'est un peu racoleur presque comme formulation. Non, ce qu'il y a derrière cette idée, c'est plutôt dans l'idée que aujourd'hui, en fait, tous les business models sont bousculés pour nos clients, pour nous, nos propres business models. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous on se réforme et qu'on veut être vraiment une agence, une nouvelle génération d'agences. Mais on a tous les business de nos clients qui sont bousculés. Et à ce titre-là, on a besoin de les aider dans la transformation aussi produits, services, au travers de workshops, en particulier inspirés du design thinking, et de les aider à réinventer les choses les plus extraordinaires en mode de commercialisation, en manière de réinventer le parcours client, l'expérience client. Et ça, ce que nous, on exprime dans le what if, c'est-à-dire se dire oui, à un moment, il faut se dire que quand quelqu'un se dit, bah, tiens, si on se disait qu'un tel, il puisse aller vendre ses produits à tel endroit et que ça n'a rien à voir avec son business, mais que tout d'un coup, c'est une manière d'intercepter le consommateur de manière très nouvelle, voilà, il faut rien s'interdire, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le sujet des marques, c'est qu'il faut tellement qu'elles aillent, émerveiller le consommateur, les étonner et surtout leur apporter des preuves précises de la manière de d'aider les gens dans leur vie, qu'il y a plein de choses à réinventer et qu'il faut donner cette liberté, ce mot d'ordre en tout cas dans l'agence pour les collaborateurs.
Merci beaucoup Elisabeth Villema. Je rappelle que vous êtes la présidente de la toute nouvelle agence Human 7.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Et aujourd'hui, on retrouve Valérie Potin.
Oui, Valérie, vous nous parlez cette semaine de l'étude Brandzy qui publie pour la première fois le classement des marques les françaises les plus valorisées dans le monde. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend, ce classement?
Ça nous apprend pas mal de choses. La toute première, déjà, c'est que nos marques françaises sont majoritairement des marques dites patrimoniales. Elles ont une moyenne d'âge qui est de 110 ans, là où les marques étrangères sont en moyenne à 67 ans. Mais le principal enseignement, finalement, de cette étude, c'est que ce classement est dominé par les marques du luxe et de l'hygiène beauté. Il faut savoir qu'elles occupent quand même 6 des 8 premières places de ce classement, ce qui est assez énorme. Oui. Alors, illustration justement avec le podium, on va retrouver dans un premier temps, à la première place, Louis Vuitton qui est valorisé à 35,5 milliards de dollars, suivi par Hermès qui est à 25,9 milliards de dollars et L'Oréal Paris qui est à 24,5. Sur la suite, on va retrouver Orange qui est en numéro 4. En numéro 5, le hasard fait quand même bien les choses, c'est Chanel qui devance SFR. Et on retrouve ensuite Lancôme et Cartier qui sont en 7e et 8e position. Ce qui est intéressant, c'est de voir donc que dans ce classement, les marques du secteur du luxe, elles représentent à peu près 37% de la valorisation de ce top 50, là où ce secteur finalement ne représente qu'un petit pourcent du classement mondial des marques, qui lui est dominé à 40% par des marques plutôt technologiques, les fameux GAFA.
Donc c'est une bonne nouvelle pour le luxe alors?
C'est plutôt une bonne nouvelle, mais évidemment pour ces marques-là, comme pour les marques françaises en général, il y a un petit revers à la médaille. L'étude, elle pointe par exemple un manque de dynamisme de toutes ces marques, en rappelant que même si elles ont vu leur valeur progresser de 93% sur 10 ans, ce qui est plutôt bien, eh bien dans le même temps, les marques du classement global, elles, ont vu leur valeur progresser de 249%. Il y a quand même un vrai gap, c'est assez important. L'autre point noir qui est partagé cette fois par les marques françaises, mais aussi avec toutes les marques européennes. C'est un, comment dire, c'est un déficit de sens auprès des consommateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les consommateurs, globalement, trouvent que ces marques sont un peu moins accessibles. Elles répondent un peu moins, elles sont moins en phase avec leurs besoins du quotidien. Et surtout, ils les perçoivent comme moins innovantes. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'on sait aujourd'hui que l'innovation, c'est un levier clé de performance et de développement d'une marque.
Et donc, il va falloir innover.
Alors voilà, il va falloir innover ou tout simplement faire savoir qu'on innove. Parce que je parlais bien d'innovation perçue, non pas d'innovation réelle. C'est vraiment la spécificité aussi de ce que nous apprend ce classement. Voilà. Donc ça veut dire que les marques françaises, finalement, quand on les regarde, elles innovent. Il y a simplement que leur innovation, elle n'est pas toujours visible ou elle n'est pas toujours là où on l'attend vraiment. Donc s'il s'agit d'innover, le message qu'on peut peut-être passer à ces marques, c'est qu'au-delà du produit et du service, il faut peut-être investir d'autres terrains, ceux que sont justement la communication, ou l'expérience de marque, avec évidemment un peu plus de digitalisation. Pourquoi pas aussi essayer de se rendre un peu plus accessible, sauf toutefois pour les marques de luxe, bien entendu, parce qu'un luxe, dès lors qu'il devient trop accessible, c'est plus vraiment un luxe.
Merci Valérie Potin.
BFM Business, Hebdo.com, le face-à-face.
Le face-à-face du jour autour des collaborations entre les marques de luxe et les artistes avec Olivier Bassuet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes producteur et cofondateur d'Artbridge qui associe les agences, les marques, les réalisateurs et les artistes. Et puis Jean Cassegrain, bonjour.
Bonjour.
Directeur général de la Maison Longchamp. D'abord, Jean Cassegrain, à quel besoin répond l'idée comme ça d'associer une marque de luxe à un artiste?
C'est le besoin de sortir un petit peu de notre cadre habituel, de faire des choses différentes, surprenantes, intéressantes.
Ça risque pas d'abîmer l'image?
Ah non, je crois pas. Ça aide au contraire à nous donner une image innovante, contemporaine, artistique.
Olivier Bassuet, vous retrouvez les mêmes choses, vous qui travaillez avec les deux côtés, les deux parties?
Effectivement, enfin c'est l'essence même d'Artbridge, c'est vraiment de faire le lien entre les annonceurs, les marques, et puis en même temps les artistes effectivement que l'on représente. Donc c'est vrai que nos spécificités effectivement, c'est inscrit dans notre nom, hein, Artbridge.
Oui, en même temps,
on ne peut pas faire plus explicite. Et c'est vrai qu'on est la seule production créative qui représente à la fois des réalisateurs et des talents qui viennent du design, d'architecture, du digital, ou même de la danse. Donc on essaie vraiment effectivement de trouver et de créer des ponts entre les marques et d'une manière pertinente.
Et comment est-ce qu'on sait, est-ce qu'il y a une recette, comment est-ce qu'on sait que tel artiste va aller avec telle marque?
En fait, il y a à la fois le goût effectivement des directeurs artistiques qui composent effectivement Artbridge, et aussi le lien avec les marques, leurs appétences et l'histoire surtout. Donc c'est l'histoire de la marque, son savoir-faire, ce qu'elle veut mettre en avant, et puis effectivement trouver le lien avec un artiste qui s'inscrit effectivement dans les valeurs que la marque a envie d'inscrire et de développer. Donc après, dans le déploiement, effectivement, on met des gens autour d'une table et puis on essaie effectivement de construire une histoire qui soit cohérente et surtout sincère et de créer des aventures.
Justement, comment est-ce que chez Longchamp, je sais que vous avez multiplié récemment les collaborations avec les artistes, comment est-ce que vous choisissez?
Je crois que le mot important, c'est sincérité. C'est-à-dire que il faut pas que ce soit un outil marketing un peu lourd, un peu pesant, systématique. Il faut que ça vienne comme ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un côté intuitif, si vous voulez, auquel on peut pas échapper. Donc, on rencontre des gens. On a envie de faire des trucs avec eux, on aime bien leur travail, et puis on le fait. Voilà, ça s'inscrit pas dans un plan marketing où chaque 3 mois on va sortir une nouvelle collaboration qui va s'adresser à tel créneau de clientèle ou tel créneau de clientèle. Ça vient comme ça vient.
Comment, avec qui est-ce que vous avez collaboré là le plus récemment par exemple?
Alors, actuellement, on est sur un projet qu'on appelle notre série Artwalk. C'est en fait, on confie l'habillage de nos chantiers à des artistes, puisque parfois, on fait des chantiers à des endroits assez visibles dans le monde, à Paris ou en ce moment à New York sur la 5e avenue. Et donc, plutôt que de mettre juste notre campagne publicitaire un petit peu frontalement, brutalement sur l'habillage de chantier, comme ça se pratique souvent, eh bien, on confie toute la palissade à un artiste en ce moment. Donc, sur la 5e avenue, un artiste français qui s'appelle Remède a fait notre habillage.
Frédéric?
Oui, est-ce qu'il y a des marques, est-ce que toutes les marques, tous les secteurs peuvent s'allier à un artiste. Je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qu'on attend spécifiquement dans le luxe, ou après tout, est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir avec des idées peut-être saugrenues, j'en sais rien.
Alors c'est bien que vous me posiez la question, parce que dernièrement une agence m'appelle en me disant vous avez fait quand même beaucoup de marques très de luxe, très pointues. Ouais. Nous on n'est pas forcément sur ce créneau-là. Est-ce que effectivement t'accepterais d'écouter un petit peu notre brief? On a une marque qui est pas forcément inscrite dans l'univers du luxe, mais on a très envie de s'inscrire effectivement dans un champ artistique. Bien sûr, tout est le bienvenu.
Du moment effectivement. Ça risque pas d'aller à l'encontre de l'ADN des artistes, c'est-à-dire que parfois ils n'ont pas envie de défendre forcément une société de consommation. Et là, si on est sur quelque chose d'un peu plus grand public, il y a peut-être contradiction.
Alors, il y a contradiction si à un moment donné on n'écoute pas l'artiste et qu'on se dit voilà, on va signer un gros chèque pour le convaincre effectivement de venir s'associer à la marque. Je pense qu'effectivement, on l'a dit tous les deux, c'est de la sincérité. Si l'artiste n'a pas envie, de toute façon, ou son curseur a des limites, n'accepte pas. C'est assez simple en fait. La rencontre se fait effectivement sur un projet cohérent. Et lorsqu'il y a des loupés, c'est lorsqu'effectivement on n'a pas pris le soin d'être sincère, de créer une aventure, de prendre en compte effectivement le positionnement aussi de l'artiste, et que à un moment donné, voilà, les valeurs qu'on a envie de développer avec l'annonceur ou avec la marque ne se retrouvent pas effectivement dans ce que l'artiste a envie de développer.
Il y a une certaine prise de risque aussi de la part des marques de luxe. Je vois chez Longchamp, vous avez collaboré avec le styliste Jeremy Scott, qui lui a eu plusieurs polémiques. Bon, c'était aux États-Unis, c'était avec d'autres marques qui n'étaient pas forcément des marques de luxe du coup. Mais est-ce qu'à un moment vous le prenez en compte, tout ça, vous dites ça vaut le coup quand même d'y aller?
Oui, alors enfin, nous on part du principe que si on collabore avec un artiste, c'est pour qu'il fasse son truc, c'est pas pour que nous on le brief et qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Si vous voulez, ça n'aurait aucun intérêt. Donc donc on laisse des cartes blanches qui sont quand même assez blanches, et puis voilà, ça tombe comme ça tombe. Et il y a des fois c'est mieux réussi, il y a des fois c'est moins bien réussi, il faut l'accepter. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant, c'est toujours challengeant pour la marque. Bon, on est habitué à travailler, parce que notre métier est quand même un petit peu artistique fondamentalement. Oui. Donc on travaille avec des designers, des stylistes qui sont un peu des artistes aussi, qui mais qui ont quand même toujours une connaissance du produit, des impératifs commerciaux, techniques, industriels. Bon, un artiste, un vrai artiste qui vient des arts majeurs, disons, ne comprend pas les aspects commerciaux et industriels, et en fait, il s'en fiche complètement. Donc, mais c'est ça qui est intéressant, parce que nous, ça nous pousse un petit peu dans nos retranchements, ça nous oblige à trouver pour l'artiste des solutions qui vont lui permettre de s'exprimer dans le cadre qui est le nôtre. Donc ça nous oblige à parfois mettre au point des nouvelles techniques de fabrication, chercher des façons de commercialiser les produits qui soient un peu différentes.
Et c'est une autre façon d'innover finalement.
Ça nous bouscule.
Merci beaucoup Jean Casgrain. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Maison Longchamp, et Olivier Bachet, producteur et cofondateur d'Artbridge.
BFM Business, Hebdo.com. Comme un chef.
Et pour finir, notre dire comme du jour, Laurent Obadia, directeur de la communication et conseiller du président de Veolia. Bonjour.
Bonjour.
Alors, j'ai lu que vous étiez le directeur de la communication le plus apprécié des journalistes. C'est pas moi qui le dis, c'est l'étude biannuelle CAC 40 de V comme V. Ça fait partie intégrante de votre travail, là, de plaire aux journalistes?
Moi, je crois que c'est surtout la communication de Veolia qui a été appréciée des journalistes qui ont répondu à cette étude. Et puis, sans doute aussi la disponibilité du président de Veolia pour leur répondre, j'allais dire, par tout temps. Voilà.
Comment est-ce que vous concevez votre métier de directeur de la communication?
Je le conçois d'abord à travers mon rôle de conseil. J'ai d'abord été conseiller du président avant même qu'il ne soit président d'ailleurs. Je l'accompagne depuis 15-16 ans et je ne suis directeur de la communication que depuis 2013. Et donc j'ai gardé cette spécificité qui est d'abord de le conseiller sur ce que je considère comme étant ses enjeux stratégiques à lui et les enjeux stratégiques de Veolia, et d'utiliser la communication comme un outil au service de cette stratégie.
Comment est-ce qu'on utilise justement la communication pour servir une stratégie? C'est-à-dire qu'il faut faire les bons choix au bon moment?
D'abord, c'est d'ouvrir une autre fenêtre sur le monde. Dans une société d'ingénieurs qui réfléchit parfois le monde à sa manière, qui ne considère pas toujours que c'est magique, là où nous, les gens communs, j'allais dire, on trouve qu'il y a de la magie dans ce qu'ils font. C'est à la fois, c'est leur ouvrir une perspective qu'ils n'ont pas forcément immédiatement. naturellement.
Mais j'imagine que ça doit dépendre aussi de la personnalité de votre direction et de votre personnalité à vous. C'est très sur mesure, finalement, le métier de directeur de la communication aujourd'hui.
Je pense que c'est très sur mesure, mais c'est aussi très sur mesure dans la manière dont le président vous tolère vos propos, ce que vous êtes capable de lui dire. Moi, en 16 ans, il m'a jamais dit « taisez-vous ». Il a pris, il a pas pris, il était d'accord, pas d'accord, mais il m'a toujours laissé une liberté de parole et de ton qui me permettent d'exercer mon métier au quotidien avec lui dans de belles conditions, parce que c'est intéressant que d'être associé et d'être au cœur de la stratégie au quotidien.
Sur le plan de communication de Veolia, vous avez une grande campagne de prévue prochainement, par exemple ?
Nous en avons plusieurs. Alors nous ne sommes pas un gros annonceur, mais nous progressons en la matière. Tout d'abord, nous prendrons la parole lors du sommet du président de la République le 12 décembre sur le climat, le One Planet Summit. Donc Antoine Frérot sera présent à l'Élysée en sa qualité de leader mondial sur les sujets de l'environnement. Et nous serons aussi beaucoup présents en médias à travers une petite campagne de pub et surtout beaucoup de prises de parole. Puis, un peu plus loin, début février, nous avons un événement annuel qui s'appelle le Press Day, où nous réunissons 50 à 60 journalistes et à chaque fois sur une thématique pour leur donner le point de vue de Veolia, à la fois sur nos métiers, sur nos ambitions. Et là, en 2018, ce sera Veolia dans 20 ans.
Ah voilà. Oui, donc gros chantier.
Gros chantier, gros travail que d'essayer d'être suffisamment prospectif pour permettre à notre public de journalistes d'imaginer ce que sera le monde dans 20 ou 30 ans et quelles seront les solutions de Veolia dans 20 ou 30 ans.
Merci Laurent Obadia. Je rappelle que vous êtes directeur de la communication et conseiller du président de Veolia. Merci également à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.